stool.
Ou stool.
À table.
À table.
Produire.
Récolter.
Transformer.
Cuisiner.
Transmettre.
La nourriture nous relie et fait vivre nos imaginaires.
Alors écoutons, partageons
et régalons-nous en suivant cette émission proposée par l'association 4K.
Tous les chemins mèneront à l'assiette.
Bonjour et bienvenue devant les fourneaux de l'association 4 quarts qui vous propose cette émission appétissante, copieuse, croustillante parfois. Oustol est une émission qui vous promet bel esprit et bonne chair. Une émission bien en chair aussi, chair ferme, fritable, chipsable, ce sera toute la question, car le sujet du jour est fétiche pour les Bretonnes que nous sommes.
Lundi, des patates, mardi, des patates, mercredi, des patates aussi. Jeudi, des patates, vendredi, des patates, samedi, des patates aussi. Et le dimanche, jour du Seigneur, oh quelle chance, des pommes vapeur. Lundi.
Célèbre chanson interprétée cette fois par Jazzaband New Orleans. Et oui, la pomme de terre a tout pour plaire, et c'est le sujet de notre émission Oustol du mois. Pour l'éplucher, l'accommoder, la faire sauter, la gratiner, on peut compter sur les marmitonnes du jour. Pascal Osier, Eliane Lardier, Françoise Doucet, Sophie Kouka. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Je ne vous traiterai pas de patates. Merci d'être là pour la corvée pluche et tout le reste. Dans cette émission Oustol version 2025, on va commencer comme toujours par la petite touche personnelle et un souvenir ou une impression patatière. Sophie.
J'allais dire que j'abuse, c'est encore des souvenirs d'enfance, mais moi j'ai été élevée dans une famille où on mangeait que des pommes de terre.
Ah oui.
Et entre autres, mais en particulier des pommes de terre sautées selon une recette. Voilà. Et il faut être honnête, voilà, j'en fais pas souvent parce que finalement aujourd'hui, j'ai pas. Voilà. Mais quand j'en mange, c'est super.
Mais ouais, c'est bon. Ah oui, je suis d'accord, moi je préfère les pommes de terre sautées.
Pommes de terre crues, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui font sauter en partant de pommes de terre crues, cuites.
Un souvenir à la maison. Pendant mon enfance, pas de friteuse, donc jamais de frites. Ça m'a jamais manqué parce que les pommes de terre, on les mange sous plein d'autres formes.
Eliane.
Un souvenir des pommes de terre, c'est quand je suis arrivée dans le nord de la France, à Lille.
Et ben voilà, les frites. Alors,
les frites et quelque chose de tout simple, les pommes de terre cuites en robe avec une petite noisette de beurre au milieu et un œuf mollet.
Oui, mais on le met où, l'œuf mollet?
Écrasé avec la pomme de terre.
Ah oui, il faut écraser la pomme de terre. D'accord.
Okay. Délicieux. Bien sûr, il y a les frites.
Oui, mais les frites à la graisse de bœuf, du
voilà.
Nord.
Voilà.
Oui, bien sûr, fétiche.
Avec le picadilly.
D'accord. Pascal.
Oui, bah, moi c'est comme Sophie, c'est la pomme de terre sautée de mon enfance. Et aussi la pomme de terre en robe de chambre, comme je l'appelais quand j'étais petite.
Tout à fait. Mais tous les enfants l'appellent
avec un morceau de beurre et écrasé avec un petit... Oh, c'était délicieux. Voilà, c'est les deux souvenirs... que j'ai conservé, que de temps en temps je fais des pommes de terre sautées et puis aussi la bonne vieille pomme de terre écrasée avec un petit morceau de beurre. C'est savoureux, hein, vraiment.
Oui, oui. Moi, j'ai quand même découvert un monde le jour où j'ai compris que les variétés étaient très importantes, qu'il y avait donc des pommes de terre qui étaient fritables et pas. Voilà, et que ça change tout. Et d'autres chipsables, alors là, c'est plutôt pour les industriels, mais il y a des pommes de terre qui sont bien pour les chips et d'autres pas du tout, etc. etc. Voilà. La patate, quelle formidable plante, n'est-ce pas? Et pour commencer la partie plat de résistance de notre partage, je vais juste vous préciser qu'une étude toute récente, une étude génomique a été publiée le 31 juillet dernier dans la revue Cell. Et donc elle nous apprend que la pomme de terre qu'on cultive provient d'un croisement ancien entre une tomate et une patate sauvage, mais qui n'avait pas de tubercule. Alors, on savait déjà que tomates et patates étaient de la même famille botanique, les Solanacées, et donc on en sait plus. Il y a eu une hybridation naturelle donc, qui a coïncidé, donc ça date pas d'hier, ça a coïncidé avec le soulèvement rapide de la cordillère des Andes, donc les montagnes d'Amérique du Sud. Et cette hybridation, puisque les tomates en fait avaient des tubercules, a fait apparaître donc des nouvelles conditions écologiques. Et cette première hybride à tubercule, grâce à la présence de la tomate, a permis à la patate de s'adapter en fait aux conditions climatiques des montagnes. D'une part parce que les tubercules, elles permettent de stocker les nutriments pour les plantes, et ensuite parce que ces tubercules permettent aux plantes de se reproduire sans pollinisation, par voie souterraine. Donc en montagne, c'était plus facile. Et c'est un avantage donc adaptatif. Et c'est comme ça que les nouvelles plantes, donc pommes de terre sauvages à tubercules, ont pu se multiplier, coloniser les Andes, d'où elles viennent et d'où elles ont pu être domestiquées, Sophie, par les humains.
Oui, et je trouve que c'est... Enfin, alors je recommande, parce que ce savoir, je le tiens d'un livre et d'un monsieur qui s'appelle François Parcy. Son livre s'appelle « Les clés du champ », mais c'est aussi quelqu'un qui passe régulièrement à la radio, qui fait des conférences, pour ceux qui préfèrent cette version-là. Très intéressant. Et qui explique en particulier comment on a, enfin, les plantes, on les a en fait domestiquées, les humains, pour pouvoir les manger. Et l'aventure de comment on est arrivé. Et effectivement, ce que tu expliquais, Véro, c'est qu'il y a énormément de mutations, enfin de phénomènes qui sont faits naturellement. Alors, ça se fait sur des grandes périodes. Et les humains, des fois, ont sélectionné des plantes qui, dans la nature, n'auraient pas vécu. Parce qu'en fait, mais comme on les met dans les champs et donc on change les conditions, ce qui était un inconvénient devient un avantage. Et souvent, ce qui est un inconvénient pour nous est un élément défensif pour la plante. Donc, par exemple, les solanacées, c'est pareil pour la tomate et pour la pomme de terre, c'est à la base toxique.
Solanacées, il y a plein de solanacées. Voilà.
C'est une
grande famille de plantes.
Voilà. Puisque j'ai noté le terme, c'est les glycoalkaloïdes qui sont l'élément toxique qu'on trouve dans la tomate, dans la pomme de terre. Donc, à la base, la pomme de terre, c'était un tubercule parfaitement toxique pour
d'ailleurs,
les humains.
D'ailleurs, amère, hein, je crois, la pomme de terre originelle, très amère.
Et puis surtout, toxique au sens mortel, c'est pas pour rire. Donc en fait, moi, ce qui m'épate déjà, c'est que les humains aient domestiqué une plante qui, à la base, c'est du poison. Enfin, je veux dire, pour s'obstiner à vouloir manger quelque chose où il y a du poison, ça témoigne quand même d'un...
Ils avaient très faim, il n'y avait que ça à manger.
Bah oui, ils étaient sur les hautes montagnes, etc.
C'est ça,
donc
ouais.
Comment ils faisaient? Alors, soit ils mangeaient de la terre, de l'argile, parce que l'argile...
Pour se protéger les saumons.
Et ils le faisaient parce qu'ils avaient observé que les animaux le faisaient, que ça marchait. Et il y a énormément d'observations de ce que font les animaux, en particulier les oiseaux, et qu'ils ont reproduit pour rendre comestibles, ou simplement repérer, par exemple, pour les amandes. Et pour les amandiers sont toxiques aussi, mais il y avait des amandiers qui avaient un défaut génétique qui faisait qu'ils ne faisaient pas le même poison, et du coup, les oiseaux pouvaient les manger. Et les humains ont repéré les arbres où il y avait des écorces et en se disant celui-là on peut y aller puisque les oiseaux les mangent petit à petit ils ont sélectionné ces arbres-là qui étaient moins toxiques, ils les ont défendus, donc ils n'auraient plus besoin de leur poison pour se défendre, c'est les hommes qui faisaient le boulot à leur place, et en échange de quoi on a eu les amandes sont de moins en moins amères, elles sont de moins en moins toxiques. Alors dans le cas de la pomme de terre, ils mangeaient de l'argile, ou alors ils les faisaient geler et après ils les nettoyaient énormément, et surtout, et ça reste quand même plutôt vrai, il faut enlever la peau une certaine épaisseur. Donc, quand on dit que la grandeur des armées se mesure à l'épaisseur des épluchures de pommes de terre, vous connaissez pas cette expression-là? C'est un vieux.
Ça date de Napoléon, au moins.
Globalement, c'était pour dire que plus on faisait faim, mieux c'était. C'était la grandeur des armées, c'est plus la pluriféline. C'est pas vrai, parce que plus la pluriféline, plus on empoisonne les gens qui les mangent, et je suis pas sûre que ce soit bon pour les armées. Enfin, toujours est-il qu'il faut rester quand même sur une épluchure pas trop fine, parce que c'est dans la peau que les éléments toxiques sont mis, et il faut surtout éliminer les germes. C'est le germe de pomme de terre qui est et la pomme de terre crue reste quelque chose qui rend malade. Mais ce qui m'intéressait, c'était surtout cette démarche humaine d'aller chercher des choses qui empoisonnent pour manger et trouver les trucs, parce que donc effectivement geler, puis nettoyer, enfin tout un processus, et puis petit à petit ils ont repéré les plants qui étaient moins toxiques.
Il y a dû y avoir des morts quand même entre temps.
Il y a dû y avoir des morts entre temps. Enfin voilà, moi je trouve que cette aventure, parce qu'aujourd'hui la pomme de terre c'est le premier aliment non derrière les trois grandes céréales, le blé, le maïs et le riz. C'est la quatrième source de nourriture. Et ça a quand même sauvé... Enfin, si on regarde...
Oui, ça a sauvé de la famine beaucoup de gens.
Après, il y a des fragilités qui font que des fois, on peut avoir justement une année où il n'y a pas de pommes de terre et on a vu ce que ça donnait en Irlande, où ça a fait des grandes famines. Mais c'est quand même un élément... Et puis, c'est très intéressant sur un plan nutritif.
Et Françoise, en plus, on est très fort en pommes de terre en France, c'est ça?
Mais oui, j'étais étonnée de voir que la France est le premier exportateur de pommes de terre, donc 2,6 millions de tonnes exportées. Donc premier exportateur, deuxième producteur en Europe. 5 à 6 millions produits en France, de tonnes.
Par an.
Et quand on regarde par an, et quand on regarde la répartition sur l'ensemble de la France, je comprends Eliane, puisque c'est majoritairement en Haute-France que c'est à peu près les deux tiers de la pomme de terre qui est produite, dans les Hauts-de-France.
Ah, mais c'est pas chez nous, mais c'est dingue, c'est pas en Bretagne. J'en reviens pas.
Alors, la consommation française, pour vous donner quelques chiffres, a baissé. Ah. En 1960, on était près de 95 kilos mangés par an et par habitant. En 80, 20 ans après, on n'est plus qu'à 62 kilos. Et en 2020, on est à 52 kilos. Manger par habitant et par an en moyenne. Voilà pour les chiffres.
Et en France, elle est là depuis le XVIe siècle, c'est ça
Oui, c'est ça.
Monsieur Parmentier.
C'est exactement ça, qui était pharmacien des armées et qui donnait une bonne partie de sa vie à promouvoir la pomme de terre. Il a planté, non sans difficulté au départ, parce qu'on lui a mis quelques bâtons dans les roues, tout autour de Paris. Et puis c'est comme ça qu'il a réussi à démocratiser, en tout cas à étendre vraiment, à faire connaître.
À populariser, on peut dire. Parce qu'en fait, elle était mal vue parce qu'elle venait de la terre.
Hein. La pomme de terre.
Ça. Ouais.
Et puis il y avait cet aspect poison. Hein. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Alors, deux réflexions sur ce que tu expliquais, Françoise. La première, c'est que ça reste, la pomme de terre, ça reste quand même une manne pour l'industrie agroalimentaire.
Ah bah oui,
sans
hein.
parler des chips, enfin, en général. Donc, comme on est un grand pays agroalimentaire, il y a ça aussi. Et la deuxième raison, je disais, moi j'étais élevée à la pomme de terre et beaucoup de gens de ma génération étaient élevés à la pomme de terre, mais à l'époque la pomme de terre n'était pas chère. La pomme de terre, c'est devenu un légume.
Ah oui, c'est cher maintenant, enfin, comparativement.
Ça n'a rien à voir avec les prix qu'on avait quand on était enfant. Manger la pomme de terre, c'est moins cher que manger des pâtes ou du riz. C'est loin d'être le cas aujourd'hui.
C'est à cause de la multiplication des variétés, des recherches qui ont été menées, c'est ça ou...
Ou une stratégie marketing, hein, pour valoriser. Je pense aussi que l'entrée de l'agroalimentaire, qui a récupéré une bonne partie de la production de pommes de terre pour faire des chips, des frites, etc., a fait que il y a eu un trou, parce que les gens, s'ils achetaient du tout fait, ils achetaient moins des pommes de terre, et que du coup, la stratégie, ça a été de valoriser la pomme de terre, d'où aussi l'explosion des sortes de variétés, d'usages, etc. Et aujourd'hui, la pomme de terre, c'est pas moins cher qu'un autre légume.
C'est vrai.
On disait que la pomme de terre, on n'avait pas une très très bonne production cette année dans les jardins. 80% d'eau dans la pomme de terre. Donc ceci oui. peut expliquer
année
cela.
Année de sécheresse, c'est pas
année
terrible.
Année de sécheresse, oui. c'est moins bon. Beaucoup de glucides, quelques fibres, pas beaucoup de protéines. Voilà. Et c'est peu calorique. Quand on ne met pas de beurre sur sa pomme de terre...
Oui, mais enfin, bon, ça n'a aucun intérêt, les pommes de terre sont en beurre. Hein,
c'est tout
on parle de beurre, mais si on met autant d'huile qu'on met de beurre, c'est toujours du gras. Hein.
C'est ça.
Non, mais c'est vrai que la pomme de terre a l'image de quelque chose qui fait grossir, et ce n'est pas vrai. La
oui.
pomme de terre crue, enfin, pas crue, surtout pas crue, mais oui. seule.
La pomme de terre à l'eau.
C'est l'accompagnement de la pomme de terre qui peut poser problème, mais voilà. Absolument pas la pomme de terre en tant que telle.
Bah, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mâches, donc on peut en manger énormément, finalement. Alors c'est que quand on a un riz complet un petit peu dur, là, on va mettre plus de temps à le manger. C'est ça, le problème.
Après, on a tellement de variétés de pommes de terre.
Ouais, hein.
Certaines s'écrasent bien, d'autres sont à chair plus ferme, d'autres sont sucrées. Pour certaines, la couleur est violette. Enfin, on a tellement de mâches
rouge.
Différentes. Elles sont plus ou moins fondantes, donc en termes de déglutition. C'est un véritable univers.
Oui, mais alors le problème, c'est qu'une variété, finalement, reste peu... Enfin, il y a quelques variétés qui sont restées longtemps, qui restent encore, mais sinon, on va passer les variétés, puis l'année d'après, c'est une autre. On n'a pas le temps de se faire une culture de ces variétés-là aussi. Enfin, je trouve.
La Charlotte reste
si, la Charlotte,
peu.
La Charlotte,
c'est voilà, c'est
ça.
Stable,
la Mandine oui. aussi.
Voilà. Mais les autres, ça passe. Et je ne sais pas si ça reste pas si longtemps que ça.
La Pinch.
Ah bah là,
mais elle n'est pas facile à trouver dans le commerce de base.
Alors c'est que c'est la pomme de terre pour la frite.
Tout à fait.
On est d'accord.
Et la purée
aussi, c'est vrai.
Et la purée. Mmh.
Et ce qu'on peut faire aussi, c'est ce qui est intéressant, justement, quand on ne veut pas mettre trop de beurre et qu'on veut quand même une purée pas trop sèche, on va dire, on peut mettre des légumes, justement. Ça, c'est un... Enfin, voilà.
Je reviens quand même sur le problème du prix, parce qu'on a fait une émission sur l'alimentation des personnes de plus de 80 ans, et on avait dit que justement la pomme de terre, c'était quelque chose qu'ils aimaient. Et une des raisons pour laquelle il y a peu de pommes de terre dans les EHPAD, parce qu'il y a pas de viande rouge pour des raisons sanitaires, etc., il y a peu de pommes de terre dans les EHPAD, et en fait c'est à cause du prix.
Ah bon ? Ah ouais, d'accord.
C'est beaucoup plus intéressant de mettre du riz que de mettre des pommes de terre. Et effectivement, c'est un problème parce que la génération aujourd'hui qui est âgée, elle a été élevée à la pomme de terre. Donc elle a envie de manger des pommes de terre au quotidien.
Alors on est moins sur la notion du prix que sur la notion de diversité alimentaire de par les recommandations du GEMRCN qui dit
c'est
que...
C'est quoi le GEMRCN ?
C'est un groupement en fait de professionnels qui donne des directives en fait pour une diversité en restauration collective qui est suivie par 99% des professionnels. Et donc, du coup, on diversifie.
Ah oui.
Mais moi, je trouve qu'on devrait s'en écarter. Ah, ça, c'est une opinion très personnelle.
On pourrait diversifier les pommes de terre, puis voilà.
Allez, hop. On pourrait, pourquoi pas, mais on pourrait s'en écarter un petit peu plus pour répondre un peu mieux au goût de nos seniors aussi.
Oui. Et puis, non, mais c'est tellement riche. Enfin, c'est... Là, pour le coup, on peut diversifier vraiment les moyens de la manger, la pomme de terre.
C'est certainement un légume, parce que si on compare avec le riz ou les pâtes, mais c'est certainement une des plus grosses ouvertures en matière de façon de le présenter et de le manger. Pour moi, il n'y a rien d'équivalent à la pomme de terre sur la variété des recettes et des présentations possibles. Et vraiment, présentations qui font qu'on mange quelque chose de différent. Quand on mange une frite ou une purée, c'est pas la même chose.
Ah non, pas du tout.
C'est
ouais.
pas juste un petit assaisonnement, etc. C'est vraiment une autre texture, c'est un autre goût. Enfin, c'est vraiment différent. Non, c'est une richesse extraordinaire. D'où notre émission.
C'est ça.
Cet hommage qu'on voulait rendre quand même à un tubercule.
À la pomme de terre. Voilà.
Qui a déjà mangé des pommes de terre en papillote?
Oui, et puis surtout, il faut les mettre dans la cheminée.
Dans le feu de bois, dans les braises.
Bah oui.
Un jour d'hiver ou un jour d'un petit peu plus froid. C'est...
Ou au barbecue, ça se fait aussi l'été. Hein.
Au barbecue, l'été.
Ou un jour de tempête.
Ah bon?
Bah oui.
Ah oui, quand il n'y a plus que ça.
Il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait plus rien.
Ah oui.
Donc,
c'est banane et pommes de terre.
On avait cuit les pommes de terre dans la cheminée.
Ah ouais, délicieux.
Une chose que j'aime quand même beaucoup avec la pomme de terre, c'est le salade.
Oui,
salade de pommes de
exactement.
Terre.
Exactement.
Il y a plein de variantes.
Exactement. Et on peut, c'est puis même dans une salade composée, quand on veut mettre une petite touche de féculent, enfin de voilà, c'est une quelques pommes de terre, c'est très bon.
Et puis vous rajoutez un légume plus vert avec dans la salade.
Un peu de fibres, parce qu'il y a pas beaucoup de fibres dans la pomme de terre. Il y a pas de graisse.
Ouais.
Il y a très peu de protéines. Enfin, finalement, sur la pomme de terre, on n'est que sur 2 grammes.
Glucides.
Après, il y a surtout des glucides. Après, peut-être qu'en fonction des pommes de terre, ça, je n'ai pas fait de scan, mais en fonction de la nature de la pomme de terre, les taux de protéines peuvent changer.
Où est-ce que vous les entreposez, vos pommes de terre, pour qu'elles ne germent pas trop, justement, puisqu'on parlait des germes du problème?
Dans la cave? Dans une cave, une vraie cave?
Quand on n'a pas de cave.
Dans le garage, un endroit bien couvert. Avec une toile de jute, par exemple.
Okay.
Ça se retrouve dans le noir.
Sous mon évier, à l'abri de la lumière.
À l'abri de la lumière, c'est important ça, à l'abri de la lumière.
Oui, en fait, ce qui est important, c'est l'abri de la lumière et la chaleur. Donc, moi, quand j'en ai pas beaucoup, je mets dans le bac du réfrigérateur. Mais sinon, effectivement, j'ai une patatière, une jolie petite patatière, pas si petite que ça, en osier. Et on met du papier journal pour empêcher la lumière. Et ça marche très bien aussi. En fait, à la température ambiante dans une maison, ça va. Nous, on chauffe pas énormément l'hiver. Il faut pas passer 20, quoi. Il faut pas passer 20 degrés. Pas de lumière, voilà, le plus important.
Et en fait, si on les cultive dans son jardin, on peut aussi les laisser en terre tant qu'on ne les mange pas. Elles se conservent très bien là.
Ça, c'est aussi une excellente
solution.
Sous la
terre, tout simplement, bah oui.
Mais dans le temps, les tontes de gazon.
Ouais. Bah oui,
mais
bien sûr.
Dans le temps, moi, je me souviens que dans ma campagne, les pommes de terre étaient livrées par tonnes. Les gens, ils faisaient livrer souvent, c'était 1000 kilos, mais ils entassaient le gros tas dans leur garage ou dans leur grange et ils mettaient de la terre dessus pour les conserver. Mm-hmm. Et du coup, on allait chercher parce que c'était vraiment pas cher, mais il y avait un camion qui passait de maison en maison qui larguait ses pommes de terre. Enfin, c'était pas le petit sachet qu'on allait chercher.
Thank you. passer à la séquence recette qui sera un peu plus copieuse que d'habitude. Allons-y pour les recettes. Ben voilà.
Alors, je commence par le gratin de pommes de terre. C'est vraiment une recette qui a bercé toute mon enfance et franchement, qui a été un des premiers plats que j'ai réalisé après, au niveau de quand j'ai été adolescente, et qui continue à nous faire plaisir. Alors, c'est tout simple, mais c'est vraiment simple. Vous mettez toutes les pommes de terre crues, donc vous épluchez les pommes de terre, vous les mettez en rondelles, et après...
Fine, assez fine quand même. Hein.
Ouais. Oui, en rondelles fines. Hein. En fait, après, pour la cuisson, il faut qu'elles soient tout le temps taillées de la même épaisseur. Et après, en fait, bah, c'est des couches de pommes de terre successives, et entre chaque couche de pommes de terre, bah, faut apporter du sel, du poivre, de l'ail, un peu de beurre, un peu de crème, et de la noix de muscade. C'est super.
Et on met du liquide quand même pour que ça cuise.
Voilà, ouais. Donc une fois que vous avez monté en fait vos couches de pommes de terre avec entre un peu de matière grasse, des épices, du sel, du poivre, eh bien vous mouillez avec un lait bien entier et vous parsemez un peu de fromage râpé par-dessus. Vous mettez...
On peut faire une béchamel aussi, hein, carrément.
Vous pouvez faire aussi la béchamel. Moi, je donne ma recette, beaucoup d'ail aussi. Je ne m'en lasse pas.
Oui, c'est vrai, c'est simple.
Au four, vous pouvez commencer à 200 degrés, hein, voire 220 degrés, puis vous baissez après 30 à 40 minutes en fonction du type de four que vous avez. Et un petit truc aussi, les 10 dernières minutes, je recouvre d'un aluminium pour éviter que la partie supérieure ne brunisse de trop. Vous éteignez au bout d'une demi-heure votre four et vous laissez continuer à finir de cuire dans le four qui tiédit.
Eliane, une recette ?
Oui, un gratin de pommes de terre.
Aussi ?
Aussi, donc juste des pommes de terre cuites à l'eau, coupées en deux, avec du fromage, et vous mettez ça à gratiner, et vous mangez ça avec une salade. C'est tout simple.
Bah oui.
Voilà.
Bon, on peut faire, c'est vrai qu'on peut faire des sortes de bruschetta aussi, voilà, avec les pommes de terre, les grosses pommes de terre, on fait les tartines.
Comment, du bleu ?
Ah ouais,
fromage, du bleu, ouais, c'est excellent comme ça, c'est tout simple.
Alors moi, je vais aller sur les salades. Ben voilà. Varié, ce que les enfants appelaient la salade rose, c'est en fait une salade de pommes de terre avec des œufs durs, de la betterave, d'où la couleur.
Oui, ça va bien aussi.
Du fenouil. Alors bon, si on fait l'hiver, il n'y a pas de fenouil, mais le fenouil apporte vraiment un petit plus. Et puis, moi, je mets du hareng en petits morceaux.
Mais fenouil cru ou cuit alors ?
Non, je me suis mal exprimée. Du fenouil, des feuilles de fenouil.
Mais cru.
Ou de la nette. Enfin,
ah, de la nette.
De la nette,
d'accord.
Oui. Ah oui. Enfin, moi, mais après, on peut mettre de la ciboulette. Enfin, voilà. Et puis, si on n'aime pas le hareng, on peut mettre des petits dés de jambon ou de poulet, ou pas de viande du tout. Enfin, voilà. Mais l'association... et puis, une vinaigrette qui a du goût. Voilà.
Oui, avec de la moutarde, éventuellement. Quoi.
Oui, mais on peut faire varier les plaisirs. Chez moi, il n'aimait pas avec la moutarde, mais enfin, faut quand même que l'assaisonnement apporte un petit quelque chose, que la pomme de terre, c'est un peu fade quand même. Oui, c'est dur, vrai. C'est fade, bon, voilà. Mais ça fait une petite salade tout à fait repas.
Une autre petite recette, quand on a quelques pommes de terre qui restent, donc on enlève la peau bien sûr, on les coupe en rondelles et on s'en sert comme support au niveau de l'apéritif dînatoire pour mettre un petit peu de hareng, un petit peu de cornichon, quelques plantes aromatiques. Et en fait, en préhension, c'est très facile, en une bouchée, c'est mangé et ça fait sensation.
C'est bien bon aussi. Pascal, t'en as une autre ? Non, t'en as pas.
Non, moi, c'est les pommes de terre sautées basiques. Et puis sinon, un petit peu comme Françoise, le gratin de pommes de terre classique. Voilà, c'est tout.
Et on revient du Nord, hein. Donc une salade de pommes de terre avec de la bâche et de la betterave.
Mm-hmm. Et de la pomme, on peut mettre aussi de la pomme, ça se marie
dans le
bien
nord,
aussi.
Dans le Nord, ils ne mettent pas de la pomme.
Non, ils ne mettent pas de la pomme, mais la pomme est une option.
Oui, ça doit être...
Si c'est la saison. Et alors moi, je vous recommanderais aussi de tester les pommes de terre boulangères sous les cailles. Donc il vous faut un four avec une grille. Vous mettez vos cailles sur la grille directement. Et en dessous, vous mettez le plat avec les pommes de terre coupées en rondelles, comme a dit Françoise, et avec un bouillon quand même, hein, pour qu'ils cuisent. mais le gras des cailles qui cuisent va tomber. Ça va être délicieux, ouais. Je vous promets.
Et tu mets des oignons avec tes pommes de terre.
Oui, bien sûr.
Donc, ouais, les pommes de terre boulangères. Mmh.
C'est ça. C'est des pommes de terre boulangères, mais ouais, avec des cailles par-dessus.
Il y a une version avec poulet qui marche pas
aussi, ouais, sans doute. Ou pintade.
Ouais. J'aime bien aussi, en termes de présentation, au lieu de présenter une purée de pommes de terre, prendre encore une fois un cercle, de mettre la purée de pommes de terre, de mettre un effiloché de canard ou le reste de viande, de mettre quelques marquants, vous enlevez le cercle avec une petite salade autour en présentation à l'assiette, c'est superbe.
Avec une purée ferme, sinon ça tombe.
Pas bête, bien sûr.
Voilà.
Eh bien, merci.
Une écrasée, comme on dit.
Oui, voilà, c'est ça.
Bon, ouais.
C'est ça. Merci, mesdames, on se retrouve très bientôt sur les ondes de Transistor. Au revoir.
Au revoir.
Dans un mois, ce sera la dernière émission et on s'y organisera pour ne pas jeter la nourriture. En attendant, vous retrouvez cette émission Oustol sur les ondes de Transistor et de toutes les radios qui voudront bien la diffuser. On l'écoute aussi en podcast sur le site internet de la radio.
Oustol sur les ondes de Transistor
et en podcast sur le site internet.